Réplique. Qu'est-ce que le populisme ? Avec Chantal Delsol et Dominique Régnier. Un spectre hante l'Europe, le populisme. Et les commentateurs s'inquiètent, ils sont même apeurés. Avec la philosophe Chantal Delsol et le politologue Dominique Régnier, nous verrons si cette peur est fondée. Mais avant tout jugement de valeur, je voudrais demander à mes deux invités de définir le phénomène. Qu'est-ce que le populisme, non pas en soi, mais hic et nunc, aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, sur le vieux continent? Que recouvre ce concept si fréquemment utilisé par les exégètes comme par les acteurs de la vie politique? Et puisque « démos » veut dire « peuple », en quoi l'appel au peuple du populiste diffère-t-il de celui du démocrate, Chantal Delsol?
Merci, bonjour. Je crois qu'effectivement, il y a eu dans les siècles, le siècle et demi précédent, à plusieurs reprises, une définition objective du populisme. Quand peut-on dire qu'il y a une définition objective? Eh bien, quand il y a des gens qui se revendiquent d'un terme. Ici, ce n'est pas le cas. Pratiquement personne ne s'en revendique, sauf effectivement par boutade.
Mais d'une manière. Défi, peut-être.
Ou par
quand
défi.
Marine Le Pen dit voilà, finalement je suis populiste. De même.
Par provocation.
De même Mélenchon.
De même Mélenchon, voilà. Exactement. Mais on peut dire que personne ne réclame cela. Donc, au fond, populisme, c'est une injure. C'est une épithète injurieuse. C'est un mot que l'on jette. Et donc, c'est un terme subjectif. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, il ne peut pas y avoir des définitions. Mais il me semble que dans ce cas-là, c'est un terme finalement qui donne plus de renseignements sur ceux qui injurient que sur ceux qui sont injurés. Et à la limite, peut-être, probablement, d'ailleurs, sur la définition qui peut séparer les deux. Alors, moi, ce que je me suis attachée à faire dans mon livre, c'est regarder qui est traité de... Parce qu'au fond, on est traité de populiste. On n'est pas populiste, on est traité de... Donc, qui est traité de populiste et quels sont les liens entre tous ces gens qui sont traités de... Donc, il n'y a que comme ça, je pense, qu'on peut essayer d'avoir une définition objective, si tant est qu'on puisse l'avoir, on en reparlera tout à l'heure. En ce qui concerne le peuple, vous avez posé la question, quelle est la différence entre le peuple du populisme et le peuple des démocrates? Eh bien, le peuple du populisme, c'est un mauvais peuple. Le peuple des démocrates, c'est un bon peuple. Et comme tout ça est très subjectif, je pense qu'il faut s'arrêter là. Au fond, on va en reparler, je pense, mais la gauche est populaire et la droite est populiste. Au fond, c'est quand même ça. Enfin bon, oui. C'est un peu... Je jette ça sur la table, on va en reparler.
Voilà, donc la définition du populisme, dites-vous, Chantal Delsol, ne peut pas être objective. Et il y aurait un mauvais peuple, celui qui ne se comporte pas bien, qui ne vote pas bien, et un bon peuple, celui qui
fait les choses comme il faut.
Qui fait les choses comme il faut.
Oui.
Dominique Régnier.
Je crois que quand on parle du populisme, il faut y voir une expression de la politique de masse, qui est une forme relativement moderne de politique, ce que l'on fait avec la multitude. L'appel au peuple, vous l'avez dit, Alain Finkielkraut, est un point commun à l'invocation démocratique et populiste. Mais ce qu'il faut, je pense, pointer davantage, c'est le populisme comme entreprise politique. C'est pas le peuple qui est en question. D'ailleurs, il est tout aussi difficile de définir le peuple que le populisme. C'est pas le peuple qui est en question, c'est l'entreprise populiste elle-même. C'est-à-dire ceux qui en appellent au peuple avec une certaine conception de la société, un certain registre de langage. Et sur la conception de la société, ce qui est très frappant dans le discours populiste, et là, on pourrait énumérer des caractéristiques qui permettent de le distinguer. Je vais en donner deux, mais qui sont très, très simples et très fortes, je crois. C'est d'une part la représentation d'une société clivée d'une façon outrancièrement simple. Il y a un peuple, il y a des élites. On ne sait pas très bien qui sont les élites. Les populistes ne le disent pas dans leurs textes, ils écrivent des textes. Il y a des gens qu'ils désignent, c'est des catégories un peu vagues, on ne sait pas très bien. Mais enfin, il y a des élites qui sont corrompues, incompétentes, souvent qui sont globalisées, internationalisées, voire cosmopolites. Et puis il y a un peuple qui est victime, qui est sain, qui a un intérêt cohérent. Je dirais, il n'y a pas de divergence au sein de ce peuple. C'est frappant de voir, par exemple, dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a plus de classe sociale. C'est un peuple dans son entièreté qui n'est plus traversé par des conflits, des antagonismes. Le seul conflit, c'est celui avec cette horizontalité élémentaire qui sépare le peuple des élites. Et puis il y a un deuxième partage qui est très, très répandu et qui fait le populisme à succès, je crois. Il s'ajoute au précédent, hein. Partage horizontal, peuple-élite, partage vertical, les gens d'ici et les gens qui devraient être ailleurs. C'est le deuxième trait de coupe. Et ce qui donne, si vous voulez, une espèce de dimension xénophobe, plus ou moins exprimée, parfois fortement exprimée, qui peut aller jusqu'à l'expression d'un discours raciste. On le trouve peu aujourd'hui en France, hein, on le trouve beaucoup dans d'autres pays d'Europe. En tout cas, on le trouve dans d'autres pays d'Europe parfois très développés, la Hongrie, la Grèce, etc. Je ne sais pas si ces sujets-là intéresseront la discussion. Et cette espèce de double coupe, il y a un peuple, il y a des élites, et il y a des gens d'ici et des gens qui ne devraient pas être ici.
Est-ce que vous diriez, par exemple, Dominique Reynier, que le thème de la préférence nationale est un thème en soi populiste ?
Non.
Parce que on ne voit pas comment il pourrait y avoir nation sans préférence nationale, donc la distinction de l'ici et de l'ailleurs, de l'autochtone et de l'étranger, est constitutive de la nation, et il semblerait parfois qu'on en vienne à voir dans cette distinction la source de toutes les discriminations, et par conséquent, le populisme, enfin, par excellence. Qu'est-ce que vous pensez? Puisque vous dites que c'est le deuxième clivage qui définit le populisme.
Non, c'est les deux clivages le définissent. Mais là, vous avez un populisme qui repose sur un clivage horizontal. Il y a un peuple, il y a des élites qui asservissent le peuple et le volent. Et puis il y a un deuxième populisme qui est le plus performant électoralement. Quand on observe les performances électorales, c'est le plus performant électoralement. C'est la différence, si vous voulez, entre les performances électorales de Jean-Luc Mélenchon et celles de Marine Le Pen. En gros, c'était du simple au double, ça devient aujourd'hui de 1 à 3. Parce que dans ce populisme qui ajoute une deuxième coupe entre nous et les autres, il y a une espèce de double clôture.
Chantal Delsol.
Oui, par exemple, dans votre livre, vous dites que le Tea Party est populiste. C'est vous qui le dites. Le Tea Party n'a jamais dit « nous sommes des populistes ». Donc, au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de savoir qui sont ceux qui traitent de populistes. Et pourquoi ils traitent de populistes. Je pense que la charge de la preuve est quand même d'abord chez eux. Parce qu'au fond, personne ne se dit tel. Alors, vous parlez de xénophobie, effectivement. La xénophobie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'excès de la pensée d'enracinement. Enfin, moi, j'utilise les termes enracinement et émancipation. On pourrait trouver d'autres choses. On pourrait trouver des choses peut-être plus simples ou plus complexes. On peut discuter de ça, c'est pas un problème. Mais bon, parce que nous sommes simplement sur un temps fléché. Et donc, nous cherchons l'amélioration du monde en tant que judéo-chrétien fils des Lumières. Par conséquent, l'émancipation, c'est à nous. Mais l'enracinement, on peut pas s'en passer. Les gens qui sont trop dans l'enracinement on a tendance aujourd'hui à les traiter de populistes parce que nous sommes dans une émancipation presque absolue. Donc ce peuple qui aime ses racines, qui aime... Alors ça peut finir par devenir de la xénophobie, bien sûr, vous avez raison. Mais ce peuple, on le déteste à cause de ça. C'est une sorte d'anti-peuple. Et c'est pour ça que j'ai repris l'exemple de Lénine. Parce qu'à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque de Lénine. Qui dit tout d'un coup, ce peuple dont je voulais faire le bien, au fond, il ne veut pas ce que je veux. Donc c'est un mauvais peuple, donc je me retourne contre lui. Et je pense que c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui, une sorte de criminalisation des opinions d'enracinement.
Personne...
Dominique Reynier.
Je ne crois pas, en tout cas, je ne vois pas, moi, ni de quel droit, ni avec quelle raison, au pluriel, on pourrait ne pas aimer ceux qui forment le peuple dans leur diversité, y compris dans les opinions qu'ils ont. Je crois que c'est plutôt le problème porte plutôt du côté de ces opérateurs, de ces entrepreneurs de populisme, ceux qui, avec la matière que représentent la souffrance, l'errance, l'incompréhension, la frustration, avec cette matière humaine, font leur politique. C'est ça l'objet du populisme comme problème, me semble-t-il. Ce sont ces entrepreneurs qui, avec ces humeurs, ce climat, ces peurs, ces pertes de situation, font leurs propres affaires plutôt que le peuple lui-même.
Alors, examinons peut-être ces deux oppositions l'une après l'autre. Commençons par l'opposition du peuple et des élites. Chantal Delsol, vous dites le populisme est une injure. Ceux qu'on appelle les populistes ne se réclament pas du populisme. Peut-être, mais il y a deux jours, j'ai entendu Marine Le Pen interrogée à la télévision par Ruth Elkrieff. Elle parlait, bien sûr, des élections à venir. Oui. Et elle demandait, avec une grande vigueur, une certaine véhémence même, que les élites, disait-elle, les aristocrates, soient sanctionnés, non seulement pour les échecs, mais pour leur mépris, pour leur morgue. Et elle se targuait d'avoir sur ses listes au départemental des mères de famille, des bouchers, c'est-à-dire des gens issus du peuple.
Des vrais gens.
Des vrais gens.
Voilà.
Donc cet anti-élitisme existe, il est revendiqué. Qu'en pensez-vous, justement ? Ne peut-on pas là parler d'un populisme assumé et, si tel est le cas, est-il légitime ?
Oui, bien sûr, c'est important. Lorsque le Parti communiste, pendant des dizaines d'années, parlait des possédants et émettait une différenciation radicale entre les possédants ou les riches, etc., et le peuple, on ne l'a jamais traité de populiste. Donc il se passe quelque chose d'autre, je crois. Alors, en ce qui concerne la différence entre le peuple et l'élite, je crois quand même que vous avez un certain nombre de gens, disons, de milieux populaires, enfin ceux qu'on appelle, en ridiculisant un peu les vrais gens, qui ont le sentiment de ne pas être pris en compte, et notamment par les institutions européennes. Enfin, c'est quand même assez... L'histoire du vote européen est assez extraordinaire. Enfin, j'ai cité dans mon livre un certain nombre d'épithètes. Il y a quelque chose qu'il faut voter, et quand on ne vote pas ça, on est littéralement injurié. Il faut voir, mais c'est impressionnant. Enfin, j'ai relevé un certain nombre de ces injures. Et puis même, il peut arriver en Europe que lorsqu'on ne vote pas bien, on vous fasse revoter. Je considère que c'est quand même tout à fait insupportable.
Ça creuse un véritable fossé.
Ça creuse un fossé. Il y a une sorte... Bon, j'ai relevé aussi un certain nombre d'injures dans l'histoire de la famille des chiens, etc. C'est tout à fait impressionnant.
Une série de sketchs présentés au grand journal de Canal+, par François Morel, entre autres, Jérôme Deschamps étaient les auteurs de cette série, qui était effectivement
de même que l'histoire de Mont-Beauf,
très critique à l'égard du peuple,
d'un certain peuple. Je pense qu'il y a une forme de haine du peuple de la part des élites, et du coup, effectivement, il y a une forme de haine réciproque. J'ai entendu un monsieur sur un radio-trottoir hier à la télévision, à qui on disait « Vous avez voté pour qui ?»« Je vais voter pour Marine Le Pen. »« Mais pourquoi, monsieur ?» et répondait avec un petit air aigrière « Pour les emmerder ». Donc voilà, il y a effectivement... Alors je pense que la faute est des deux côtés, bien sûr.
Dominique Crénier.
Alors sur l'auto-qualification, pas multiplier les références et citations, mais Jean-Marie Le Pen déjà, à la fin des années 90, et puis Marine Le Pen maintenant, ont pris l'habitude de s'auto-désigner populiste. Ça n'est pas un argument pour dire que le terme est valable ni qu'il est approprié, mais ils le disent de même maintenant. Et Jean-Luc Mélenchon l'a fait à plusieurs reprises aussi.
C'est vrai, vous avez raison.
Et dans son dernier livre, il opère même une justification, il s'en explique dans son introduction.
C'est même assez nouveau.
C'est nouveau. Hein. Il dit dans son introduction, écoutez, je vais vous expliquer, les travailleurs, la classe ouvrière, bon, ça ne prend plus, il faut parler du peuple, et je voudrais que vous patientez jusqu'à la fin du livre. Il prend beaucoup beaucoup de précautions pour expliquer ce grand retournement. C'est les aristocrates dont parlait Marine Le Pen, citée par Alain Finkielkraut à l'instant, ça fait penser à la formule « les belles âmes » ou « les belles figures » qu'utilise Jean-Luc Mélenchon. Je fais ce parallèle systématiquement parce qu'on a les mêmes formules, la même rhétorique qui amène à ce que vous disiez, Chantal Delsol, pour les emmerder, ce « les », impresentable, inconnu.
C'est ça, « il ouais, »,
complètement fantasmagorique, évidemment. Hein, il est redoutable parce que ça signifie qu'on ne sait pas très bien qui, mais au fond, on s'en
les
prend.
Les technocrates de Bruxelles, par exemple.
On y mettra tout là-dedans. Hein. Ouais. Oui. Tout peut rentrer là-dedans. Hein. C'est une boîte redoutablement grande.
Mais c'est terrifiant d'en arriver là, quand même.
Oui, c'est terrifiant d'en arriver là. Et au fond, si vous voulez, puisque vous preniez l'exemple très pertinent de ces référendums nationaux européens qui n'étant pas dont le résultat n'est pas compatible avec la poursuite de l'Union européenne sont rejoués, c'est aussi parce que nous sommes devant une contradiction. Et je pense que la question populiste en est l'émanation, je le dis en un mot. Nous avons construit un système commun qui est l'Union européenne, qui suppose une certaine manière de dépasser la nation. En même temps, nous ne savons pas très bien comment accomplir totalement ce dépassement, parce que nous ne le voulons pas tout à fait, et qui ne sait pas à quelle place donner au peuple. Exemple très simple. Lorsqu'on fait un traité constitutionnel comme en 2005, le geste le plus cohérent, c'est ou bien de dire ce sont les parlements qui vont décider, c'est la démocratie représentative, ou bien on imagine un référendum européen et on institue ainsi un peuple européen. Mais l'idée de faire une machine dans laquelle va cohabiter une dimension européenne et des souverainetés populaires nationales qui, par ailleurs, peuvent être légitimes, est une machine qui ne peut que capoter, au fond. Et c'est parce que le geste n'est pas accompli. Ou bien nous sommes allés trop loin et il faut se rétracter, ou bien nous ne sommes pas allés assez loin pour instituer un peuple européen. Mais là, aujourd'hui, on est dans cette espèce de grand tiraillement qui est une souffrance pour tous les Européens. Je crois que c'est une contradiction à laquelle on peut apporter une réponse, qui est la rétractation, qui ne signifie pas négativement, mais qui supposerait donc de sortir de l'Union européenne pour renouer cette harmonie entre la nation et le peuple, ou bien d'instituer un peuple européen à l'échelle de l'Europe. Mais
ça ne s'institue pas, ça.
Ça se fasse au jour le jour pendant des siècles, donc avec le temps, il faut du temps. Alors moi ce que je comprends pas, vous voyez, là-dedans, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de criminalisation des opinions. Je pense que nous sommes complètement là-dedans. Le souverainisme, je ne suis pas personnellement souverainiste, je suis fédéraliste, mais le souverainisme est une opinion.
Bien sûr.
Ce n'est pas un crime. Alain Finkielkraut vient de parler de préférence nationale. C'est une opinion, ce n'est pas un crime. Il y a peu de temps, juste après...
Je suis pas sûr que la préférence nationale soit une opinion. Je pense qu'elle est constitutive de la nation elle-même. C'est la nation qui choisit qui elle reçoit.
On peut même peut-être aller jusque-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ce n'est pas un crime de poser ça sur la table.
Oui.
L'autre jour, juste après les attentats, à la sortie de mon cours où j'avais parlé du messager européen et où j'avais cité votre nom, un de mes élèves m'a pris à partie et m'a dit « Madame, je ne veux plus entendre le nom de Finkielkraut dans le cours parce que ce n'est pas un philosophe, c'est un fasciste ». Et je cite les mots tels qu'ils sont. Bon, c'était un garçon d'origine maghrébine. Je lui ai dit, écoutez, mon cours m'appartient, je parle de qui je veux. Si vous n'êtes pas content, vous ne venez plus à mon cours. D'ailleurs, il n'est plus jamais venu.
Bon,
ça signifie, si vous voulez, que nous sommes dans un système de criminalisation des opinions. Et moi, je trouve ça insupportable. Et je pense que si les mouvements que nous appelons populistes montent, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans une démocratie, trouvent ça insupportable. Et ils ont raison. Car c'est insupportable. Si nous trouvons en face de gens qu'on considère comme complètement des racistes, bon, du rafour crématoire, etc., et qu'il faut les interdire, il faut les interdire. On discute et on les interdit. Mais s'ils ne sont pas interdits, eh bien... ils sont porteurs d'opinion. Je pense que c'est très important quand même de le dire.
Je ne vais pas m'arrêter à l'anecdote que vous venez de relater, Chantal
Delsol. C'est intéressant quand même.
Oui, elle est sûrement symptomatique. Mais pour poursuivre dans la discussion, je vois en effet que l'anti-élitisme est, disons, l'une des deux grandes composantes du populisme en vogue aujourd'hui. Ce que je constate cependant, par ailleurs, et on n'en parle pas beaucoup, c'est un anti-élitisme fanatique répandu dans les élites elles-mêmes. Et cela vient, je crois, du fait qu'il y ait aujourd'hui deux peuples, le peuple comme nation et le peuple, justement, des quartiers populaires, comme on dit. Or, ces quartiers populaires, on a le sentiment qu'ils sont l'objet de toutes sortes de discriminations et que la discrimination commence... par exemple, avec le type de culture qu'on voudrait leur inculquer. J'ai parlé la semaine dernière de la réforme du concours de l'ENA, suppression de la culture générale. Et le Monde s'en félicitait du fait de son caractère discriminatoire. Et j'ai sous les yeux le livre d'Éric Morin, Le ghetto français, enquête sur le séparatisme social. Éric Morin, docteur en économie, ancien élève de l'école polytechnique, est un pur produit de la méritocratie française. Il appartient à l'élite. Mais il dit que pour lutter contre les causes profondes de la ségrégation, eh bien, il faut promouvoir une école moins sélective, moins anxiogène, avec des programmes moins lourds et plus concrets. Et il faut justement combler les distances qui se creusent entre ceux que leur environnement social prépare aux exercices savants et aux humanités et ceux qui en ignorent les codes. Pour ce faire, il faut promouvoir l'acquisition d'une culture commune, culture discutée et définie par l'ensemble de la société et non pas seulement par les spécialistes de chaque discipline. Donc voilà, il y a une culture élitiste, la culture cultivée dont les élites invitent aujourd'hui à se défaire, précisément parce que elle accentuerait, et là nous en venons peut-être à la deuxième définition, elle accentuerait le fossé qui sépare les autochtones de ceux qui viennent d'ailleurs. Donc je suis surpris, si vous voulez, de cette virulence de l'anti-élitisme populiste, parce que il y a aussi un anti-élitisme très répandu dans l'élite visée elle-même. Bon, Dominique Régnier.
Ces questions d'école sont à la fois maintenant bien connues et puis toujours un peu embrouillées, parce que chacun sait que la méritocratie est assez largement héréditaire. Socialement hérité, oui. On le sait.
Justement.
On sait les problèmes que posent les épreuves de culture générale de ce point de vue-là, en particulier lorsqu'elles donnent lieu, et ça c'est le point le plus important, à un entretien oral, un examen oral, où là il y a des difficultés qui sont liées à des formes de timidité sociale, etc. Tout ça est vrai. On sait aussi qu'on peut contourner ou limiter ses effets sans aller jusque à dire ce que vous avez lu. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Par exemple, de manière très pratique, on peut très bien conserver une épreuve de culture générale qui est très bénéfique pour tous les aspirants, parce qu'elle va les amener, bien sûr, à accroître leurs connaissances, à ouvrir leur univers, à découvrir des mondes qu'ils ne connaissaient pas, et c'est la logique de la formation de soi et de l'école, etc. On peut le faire en, par exemple, définissant de manière limitée un programme sur lequel on va interroger les candidats ou les étudiants. Il suffit de dire qu'il y a 4 ou 5 livres dont la lecture est obligatoire et que c'est sur ces 4 ou 5 livres-là que, par écrit, par exemple, les candidats seront interrogés. C'est tout à fait à la portée de n'importe quel candidat motivé qui travaille. Et je ne dirais pas quelles que soient ses conditions, parce que ça n'est pas vrai, mais enfin, ça limite les effets négatifs, oui, sans renoncer au principe.
Oui, mais quand même, Dominique Régnier, la critique des héritiers, qui a commencé avec le livre de Pierre Bourdieu et Jean Coupe-Passeron, a débouché sur une remise en cause de l'héritage lui-même. Pourquoi d'ailleurs cet héritage, finalement particulier, local, enraciné ? Même si la culture humaniste n'est pas une culture de l'enracinement, dès lors que nous vivons dans une société globalisée, mondialisée, pourquoi privilégier cet héritage sur les autres, la culture générale sur la culture des jeunes ? Ce mouvement existe très fort. À mon avis, c'est un anti-élitisme aussi. Donc, ce qui m'inquiète, c'est de voir deux anti-élitismes qui s'affrontent aujourd'hui. Le populiste, qui parle d'une aristocratie, des bureaucrates et des politiques, et le progressiste, qui voudrait noyer l'héritage de façon à, justement, à abolir les privilèges des gens bien nés.
Oui, mais en même temps, vous avez aussi l'expression dans le texte de Morin que vous avez lu, vous avez l'expression assez remarquable de ce point de vue-là, phénoménale, je dirais, du désarroi de l'institution publique, qui ne parvient plus du tout à accomplir le programme qu'elle s'est donné et qui constate que par bien des raisons qui seraient peut-être long d'énumérer, je ne sais pas si vous voulez qu'on y revienne à l'effet de crotte, mais qui par bien des raisons aujourd'hui modifie en profondeur le rapport au savoir, le rapport à l'école. Et il n'y a pas que les aristocrates, les politiques, les bureaucrates et les eurocrates qui sont ou les banquiers, parce qu'il y a aussi les banquiers, les financiers qui sont la cible de ce populisme d'entrepreneurs, encore une fois, de ces partis populistes ou de ces populistes qui vivent, encore une fois, de leur populisme. Il y a aussi, de manière générale, les experts. Enfin, Chantal Delsol, Alain Finkielkraut, nous trois, on peut tout à fait être mis en cause au titre que nous parlons sans avoir les titres pour le faire, sans avoir été élu, sans avoir... C'est très répandu aujourd'hui, cette forme-là. Donc c'est une espèce de discrédit jeté sous toute forme de parole qui se considérerait comme autorisée par un travail ou par un mandat.
Oui, je réponds à votre question, effectivement. Je pense qu'une partie de l'élite, je ne sais pas, je ne peux pas la quantifier, évidemment, a honte de cette culture. Et donc, ça provoque d'une certaine manière un anti-élitisme dans l'élite elle-même. On pourrait en parler très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que ceci est quand même... il y a quelque chose de spécifique dans la volonté de faire des concessions. On va faire des concessions à une culture populaire qui sera, par exemple, la culture de l'islam, mais on ne voudra pas faire de concessions à un enracinement patriotique de type Front National. C'est d'ailleurs... Le livre de Houellebecq, pour ça, est intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, voilà, pour échapper au Front National, on pourrait voter pour n'importe quel islamiste fondamentaliste. Et c'est au fond ce qui se passe. Ce qui est quand même très surprenant, parce qu'on dit pourquoi, au fond, l'islam va contre nos valeurs aussi. Et oui, mais quand même, je pense qu'il y a ici un rapport aux Lumières. J'essaie de répondre à votre question. Il me semble qu'il y a un rapport aux Lumières qui est justement très différent, puisque on considère que l'islam et le FN sont contre les Lumières des deux côtés. Et oui, mais l'islam, c'est une culture qui est restée en arrière encore, et puis qui est victimisée, etc. Donc les pauvres, il faut les aider à monter. Tandis que le FN, ce sont des gens qui vont à l'encontre exprès. Et alors là, ce sont des vrais salauds, vous voyez. Mmh. Je pense qu'il y a ça aussi. Donc on va faire des concessions d'un côté, mais pas de l'autre. C'est là, oui, je pense, qu'on peut distinguer.
Puisque nous parlons du Front National, et ça nous fera une transition avec ce deuxième grand clivage, les gens d'ici et les gens d'ailleurs, dont vous dites, Dominique Régnier, qu'il définit aussi le populisme. Le Premier ministre, dans des déclarations récentes, a voulu dramatiser justement la montée dans les sondages du parti de Marine Le Pen. Et il a eu cette phrase: « Mon angoisse, j'ai peur pour mon pays qu'il se fracasse sur le Front National ». Donc voilà, un populisme qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et il semblerait d'ailleurs que le populisme soit dans l'esprit d'une partie de la classe politique ou d'une partie de la gauche, disons, l'autre nom du fascisme des années 30. C'est un peu ça. C'est le Front National veut arriver au pouvoir, c'est les années 30 qui reviennent. Alors que pensez-vous de cette stratégie, premièrement? Et deuxièmement, que pensez-vous de cette définition implicite ou explicite du populisme du Front National d'extrême droite en termes de fascisme? Dominique Régnier.
Bon, sur la question sur la mise en relation avec les années 30, l'exercice est toujours intéressant à faire. Il faut le faire, hein, et regarder. Mais il faut surtout en conclure que ça n'a rien à voir et que les différences sont trop grandes. Donc, c'est de l'ordre de la rhétorique ou de la polémique. Et c'est un peu plus embêtant que ça encore, parce que ça ne permet pas de voir à quel point le populisme du Front National, qui n'est pas propre, c'est un mode d'être du populisme que l'on retrouve en Europe, hein, qui est vraiment un modèle qui, à mon avis, est né un peu en Italie et surtout aux Pays-Bas, et qui s'est propagé partout. À quel point c'est nouveau, à quel point c'est différent et à quel point c'est susceptible d'un horizon de succès. Ce serait vraiment une erreur de ce point de vue-là de trop regarder les années 30, même si encore une fois l'exercice est intéressant. Et en ce qui concerne l'extrait de l'interview du Premier ministre auquel vous faisiez référence, avec que vous citiez, il faut quand même remarquer que c'est un grand risque, hein, politique, quand on est à la tête du gouvernement dans un pays où il y a beaucoup d'angoisse, que de dire que soi-même on a peur. Je pense que c'est un grand risque. Et même, je pense que c'est un contresens fondamental par rapport à la nature de l'exercice qu'on est chargé de faire. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont entendu cela ont dû être elles-mêmes plus angoissées encore, parce que c'est particulièrement perturbant. Et les effets sur la mobilisation électorale, parce que je crois que c'était ça qui était espéré, sont à mon avis très faibles, voire négatifs. Et l'idée était au fond de mobiliser l'électorat pour éviter une abstention trop grande qui favoriserait d'une part la droite, de l'autre, d'autre part le Front National. Après, la question, je vais terminer là-dessus, mais un mot à ce sujet, la question des 30%. Moi-même, qui depuis des années insiste sur la force de ce mouvement et le danger qu'il peut représenter pour notre démocratie ou l'espace européen, eh bien, je dis, il faut aussi quand même garder raison, paradoxalement. C'est-à-dire que, tout à l'heure, Chantal Delsol, vous citiez à raison le Parti communiste français, qui, à mon avis, a rempli une fonction tribunicienne, comme disait Georges Lavaux, qui a à voir avec une forme de... La démagogie trame la politique. Hein, on peut pas... Donc, il y a toujours cette forme de populisme qui est là, qui est présente. Et le Parti communiste, pendant longtemps, a été autour de 20-25%, et en gros, contenait ce quart de protestation. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Et même à la gauche du PS, il n'y a rien. Et Jean-Luc Mélenchon, qui fait beaucoup d'efforts, n'y parvient pas. Aux européennes 2014, c'est
6%. Pourtant, il est bon.
Je trouve que non, mais on pourra en parler. Oui, je pense qu'il se trompe, en fait, d'époque ou de public. Mais c'est intéressant, vous avez raison, c'est un cas intéressant. Il est très brillant intellectuellement, et c'est un rhéteur, et il a une capacité à argumenter qui est remarquable. Et d'une certaine manière, même, c'est une espèce de dernier orateur, je dirais, par rapport à tous les autres, avec les références qui sont les siennes et la manière d'articuler qui est la sienne, d'articuler les arguments. Mais le Parti communiste a disparu. Le Front de gauche a fait, prenons les européennes, 6%, exactement comme en 2009, donc il ne profite en rien des difficultés, des déboires de la gauche au gouvernement. Tout se passe du côté du Front National. Mais tout se passe là, c'est-à-dire 18%, un peu moins en 2012, ce qui était le meilleur score pour le Front National depuis sa création. Et on se dit peut-être là, 25%, peut-être 30%. C'est peut-être, alors avec beaucoup d'abstention, donc il faudra voir aux élections où les gens participent. On est peut-être autour de ce cinquième, toujours le même, un cinquième et un quart, qui au fond ne parvient pas à trouver sa place, qui souffre de sa situation et qui exprime une protestation. Il n'est pas certain que la montée soit inexorable, ni qu'elle soit nouvelle.
Moi, je suis pas du tout contre. Je pense qu'une démocratie doit se défendre. Donc, qu'une démocratie interdise un parti pour se défendre, je trouve ça très normal. L'Allemagne a interdit les nazillons qui renaissaient. Les Américains ont pratiquement interdit le Parti communiste pendant une époque. Bon, moi, je trouve ça tout à fait logique. On débat dans un pays, on discute et finalement, on interdit. À un moment, Le Pen pouvait apparaître comme un fasciste des années 30, un peu égaré dans notre temps. Oui, ça c'est vrai. Il y a déjà assez longtemps, il faut dire. Et on aurait pu décider tous ensemble, quand le Front National était à 5, de l'interdire parce qu'il était un peu à la limite du post-nazillon. Bon, on aurait pu le faire, je ne sais pas ce que j'aurais pensé à l'époque, mais ça ne me choquerait pas. À partir du moment où on ne l'a pas fait, alors les choses sont déroulées tout à fait différemment. On a utilisé l'existence de ce parti, la gauche l'a largement utilisé pour monter, parce qu'au fond, la droite était coupée en deux, et personne n'avait le droit de toucher à cet électorat-là, et j'en sais quelque chose dans ma famille. Donc, à partir du moment où on ne l'a pas interdit, où la gauche monte grâce à cela, on est dans un système d'apprentis sorciers. Et au fond, je dirais que même les paroles de Valls que vous citez, au fond, font partie de la criminalisation dont je parle. Alors, cela dit, si ce parti arrivait au pouvoir, bon, d'abord, je pense qu'il n'a pas de cadre. Ensuite, il y aurait un sabotage généralisé dans tout le pays, ce qui ferait que ce serait une catastrophe absolue,
Mais
je pense.
Vous avez parlé de peur, Dominique Régnier. Et ce mot m'a évoqué un article publié par Olivier Rollin au lendemain des attentats du 7, 8 et 9 janvier. Un article sur l'islamophobie. Il a rappelé que phobie veut dire peur en grec, pas haine.
Mm-hmm. Oui, bien
et il a dit, bah écoutez, oui, alors de ce point de vue-là, je suis islamophobe, j'ai peur de l'islam ou j'ai peur d'un certain islam. J'ai peur et je revendique cette peur. On a quand même le sentiment aujourd'hui qu'on veut remplacer une peur par une autre, c'est-à-dire la peur de l'islamisme par la peur du fascisme, et on culpabilise ceux qui ont vraiment peur de l'islamisme en les traitant plus ou moins, quelquefois plus que moins, la preuve, l'anecdote que vous avez racontée, de fascistes, avec cette idée derrière la tête, très bien formulée par Bertolt Brecht dans son célèbre poème « La solution », après la révolte de Berlin en 1951, la solution, c'est de dissoudre le peuple et d'en élire un autre. C'est exactement ce qu'a fait la Fondation Terra Nova. La Fondation Terra Nova, en 2012, a dit « Le peuple français, c'est un peuple de beaufs, le cas est désespéré, on va créer une coalition, finalement, des femmes, des bobos et des minorités. » Et c'est comme ça qu'on va avoir la majorité. Mais là, on peut tout de même s'interroger sur une stratégie de ce type. Tant que la question de l'islamisme n'est pas traitée pour ce qu'elle est, la peur va se répandre, et en effet, il n'y a pas de raison pour que s'arrête la montée du Front National, alors même que quand on analyse en effet son programme explicite et non pas ses arrière-pensées, il y a toutes les raisons de s'inquiéter de son arrivée au pouvoir. Dominique Régnier.
Moi je partage cette critique du terme islamophobie, et je partage cette observation. D'ailleurs, il faut de ce point de vue-là mettre en garde ceux qui gouvernent, parce que parler d'islamophobie comme si c'était une forme d'anomalie, c'est ne pas connaître la perception publique qui aujourd'hui est vécue compte tenu de ce qui est montré d'une partie de l'islam et qui sont des images effrayantes que chacun a à l'esprit et qui sont presque quotidiennement présentes. Donc il y a en même temps des sentiments anti-musulmans qui existent et qui vont jusqu'au racisme. Et de la même façon, il y a, et c'est ce qui moi me frappe beaucoup pour le Front National, il y a aujourd'hui d'une façon assez curieuse, alors même, et je crois que chacun le sait, en particulier autour de cette table, il y a une façon qu'a le Front National de se présenter comme étant l'objet de toutes les critiques, alors qu'il est l'objet, au contraire, de tous les soins. Et en particulier, cette façon de dire que le Front National n'est pas recevable, ou de feindre de le dire, parce qu'il s'oppose à l'islam, et en même temps de construire une figure de l'islam et d'y participer, une figure de l'islam qui n'existe pas. Il y a beaucoup de nos compatriotes musulmans qui n'ont rien à voir avec tout cela, on le sait bien, il y a des subtilités, il y a des différences, des héritages différents, des sensibilités différentes, qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne sont pas entendus en tant que tels, ça ne peut pas passer, parce que ce que nous voulons, dans une espèce d'étrangeté collective où les médias ont une responsabilité considérable, ce que nous voulons, c'est cette espèce de polarisation qui fait que d'un côté on aura des fondamentalistes et de l'autre le Front National. Et le Front National, c'est un festin pour lui, on lui offre un festin. Au début de l'émission, avant qu'elle commence, avec Chantal Deschamps, on s'interrogeait pour savoir si les différences qui nous opposaient étaient grandes ou pas très grandes. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que les débats aujourd'hui, l'espace public aujourd'hui, il est systématiquement construit sur des polarisations radicales. Et il est évident, quand on voit se mettre en scène une discussion, il est évident que personne ne va s'accorder avec personne. C'est fait pour ça. Et de la même façon, nous construisons collectivement un islam unifié, complètement ossifié, qui n'existe pas. Et un Front National, bien sûr, qui est contre cet islam, qui nous menacerait. Et personne, aucune subtilité intermédiaire, aucun musulman autre, aucun islam autre. Moi, je publie des textes où des musulmans s'expriment et disent des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que l'on voit de l'islam à la télévision, pour le dire de manière aussi carrée. Mais évidemment, ces subtilités viennent brouiller, viennent gêner une polarisation qui est désirée étrangement et qui peut-être d'ailleurs nous conduira à une forme de catastrophe.
Chantal Delsol.
Oui, c'est bizarre cette histoire de peur, parce que finalement, ceux qui ont peur sont considérés un peu comme des pauvres types qui... alors que, d'une certaine
des
manière...
Des demeurés,
oui.
Au
deux sens du terme. Alors qu'en même temps, il y a une grande... de grands éloges qui sont attachés à l'heuristique de la peur de Jonas, etc.
Il y a une
bonne peur et une mauvaise peur, au fond. Personnellement, j'ai peur de l'islam, parce que n'importe quelle femme peut avoir peur qu'on lui confisque un jour son stylo, et c'est bien ce qui arriverait dans un cas à la Houellebecq. Hein, bon. Ouais. Donc, c'est pas marrant du tout, ça. Et j'ai pas honte de dire que j'en ai pas. Mais cela dit, je pense pas du tout que les troupes du Front National soient suscitées par la peur. Ce sont plutôt des gens, à mon avis, enracinés, hein, qui sont enracinés dans la patrie, dans la famille, dans les identités. C'est presque un gros mot. Et je pense que c'est ça qui fabrique le Front National. Alors, Dominique Régnier parle de polarisation radicale et le regrette, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même bien penser qu'on n'est pas le pays de 89, on est le pays 93. Enfin, vous regardez comment s'est passée la libération après la guerre et comment ça s'est passé dans les pays communistes. Chez nous, on tue, on torture, on tape. Bon, aujourd'hui, heureusement, on n'en est pas là, mais dans les mots, au fond, c'est un peu la même chose. Et je pense que c'est notre mentalité française qui veut ça.
Une mentalité, c'est-à-dire
Une mentalité très violente. Je pense que nous sommes des gens violents.
Et pour le moment, c'est une violence verbale.
Eh bien, oui, heureusement, ça s'arrête là. Heureusement que ça s'arrête là.
Oui, encore qu'il y a eu quelques morts.
Alors, Dominique Régnier, vous parliez d'enracinement, Chantal Delsol. Peut-être qu'au fond, ceux qui méprisent l'enracinement sont eux-mêmes, sans le savoir, enracinés dans les nouvelles technologies Et celles-ci leur font croire, en effet, qu'ils sont de plein pied dans la planète et qu'ils n'ont plus besoin de la médiation des nations. C'est les téléphones portables, on n'a plus d'adresse.
Oui, bien sûr.
Il y a quelque chose d'infiniment nomade, d'infiniment mobile, donc c'est peut-être un enracinement comme un autre. Mais justement, face à tous ces phénomènes, vous parlez, et c'est dans votre livre « Les nouveaux populismes » de Dominique Régnier, et c'est un thème, un concept que je trouve très intéressant, de populisme patrimonial. Que faut-il entendre par là, Dominique Régnier ?
Si vous voulez, c'est tout ce qui me paraît, moi, définir cette nouvelle figure des populismes, très contemporains et au moins européens. Pour rejoindre ce que disait à l'instant Chantal Delsol, il y a, me semble-t-il, en Europe, une forme de déstabilisation existentielle qui saisit tous les Européens, en fait. À la vérité, je pense, d'un phénomène planétaire qui est lié à beaucoup de facteurs.
Vous parlez d'ailleurs de grand repeuplement de l'Europe. Alors peut-être que les deux phénomènes sont liés.
Moi, je parle de recomposition ethno-culturelle.
Oui. Mais repeuplement, ça veut dire effectivement qu'il y a une mutation démographique.
Il y a une mutation démographique.
D'une importance inouïe,
d'une
rapidité spectaculaire, et donc forcément.
Il y a la technologie de la globalisation, il y a la crise de la capacité budgétaire des États. Il y a des questions considérables qui se posent pour chaque individu qui ne sait plus très bien ce que va devenir son existence. Enfin, il y a beaucoup de questions de ce type qu'on pourrait lister. Et cela fait surgir, si vous voulez, une nouvelle problématique. Ou en tout cas, deux vont se combiner. Il y a une problématique première qui est très connue, qui est celle, au fond, moi je dirais que c'est le patrimoine matériel, la défense de son niveau de vie, au fond. Hein, et c'était classique, les partis politiques savaient très bien, comme les syndicats, prendre en charge cette revendication. Mais il y a une deuxième revendication, qui est ce que j'appelle le patrimoine immatériel, on pourrait dire le style de vie, en quelque sorte, qui nous échappe. Au fond, ce qu'autrefois arrivait à faire le Parti communiste, qui défendait le patrimoine matériel et qui arrivait à offrir avec d'autres, aux ouvriers, pour être plus clair ici, un progrès matériel, social, ne suffit pas, parce qu'il y a autre chose qui est cette espèce de patrimoine immatériel, ce style de vie. On l'a vu s'exprimer en France récemment dans des votes pour le Front National, on le voit aussi par exemple en Belgique, typiquement, en Suisse, pardonnez-moi, typiquement le référendum sur les minarets est une expression de ce patrimoine immatériel. Les Suisses disaient, c'est pas comme ça qu'il y a chez nous des constructions, on ne reconnaît pas, donc on ne peut pas accepter. Et le seul parti, la seule organisation qui, en Europe, depuis les années 90, a réussi à comprendre et à associer ces deux revendications, l'une portant sur l'aspect matériel de nos existences, l'autre sur l'aspect immatériel, ce sont des formations du type du Front National. C'est pourquoi je les qualifie de populisme patrimonial. Et c'est l'avance qu'ils ont, par exemple, sur un populisme comme celui de Jean-Luc Mélenchon, qui, de ce point de vue-là, n'a pas compris ou a compris, mais ne peut pas traiter le sujet, c'est-à-dire comment parler aux ouvriers de leur malaise existentiel.
Alors, que pensez-vous de cette notion, Chantal Delsol, de populisme
C'est là où nous sommes, je crois, très proches. Je pense que fondamentalement, ce que nous appelons populisme, c'est ça. Ce sont des groupes de gens qui considèrent que nous sommes trop partis vers l'universel et que nous ne sommes pas assez enracinés dans les particularités. Donc, ça peut être les particularités,
oui,
ça peut être toutes sortes de choses.
Chantal Delsol, populisme patrimonial, le patrimoine,
culturel
français, c'est un patrimoine culturel. C'est pas simplement des recettes de cuisine, même si elles ont leur importance, ni la quantité des fromages. De Gaulle disait, la France est difficile à gouverner parce qu'il y a 250 fromages, pourvu que ça dure. C'est aussi ce qu'on osait appeler, il y a encore quelque temps, une civilisation française.
Oui,
c'est-à-dire le patrimoine et cette modalité d'accès à l'universel dont, semble-t-il, une partie
exactement
de l'élite ne veut plus parce qu'elle croit que par la technique, un accès direct.
Qu'on peut s'installer dans l'universel sans passer par le particulier.
Oui.
Ce que disent les gens qu'on traite de populistes, c'est qu'il faut passer par le particulier pour ça. Parfois, d'ailleurs, ils aimeraient bien rester dans le particulier. C'est là où il faut aussi les éduquer. Moi, j'aime bien distinguer ces deux phrases avec tout ce qui s'attache à elles de péjoratif ou autre, ou non. La phrase de Montesquieu, si je savais quelque chose qui soit bon pour mon pays et mauvais pour l'Europe, je le rejetterais, etc. On connaît cette phrase qui est constamment citée et qui est louée. Et puis la phrase de Hume, qui a été citée par Le Pen, je préfère ma sœur à ma cousine à ma voisine, etc. Qui est une phrase qui en fait, qui loue le particulier et qui est complètement diabolisée.
Oui, mais justement, pour éviter les dérives dont vous avez peur l'un et l'autre, ne faudrait-il pas que s'ajoute à ce populisme patrimonial un élitisme patrimonial qui considère en effet qu'il y a des choses dans la culture française qu'il faut continuer bien à sûr. Préserver et à transmettre. Parce que le patrimoine, c'est... Ben, le patrimoine qu'on nous apprenait, c'était les trois grandes pièces, tous les ans.
Il faudrait que l'élite s'intéresse à ça.
Mais oui, c'était Racine, Corneille et Molière, tous les ans.
Il
y a la repentance, la honte, la difficulté d'enseigner tout ça. Donc un populisme patrimonial sans élitisme patrimonial, ça met en danger le patrimoine lui-même, non ?
Sur le plan de la dynamique historique, le populisme patrimonial cohabite et risque de cohabiter, peut-être à son avantage, avec des élites qui, je crois, moi, de manière fonctionnelle, sans jugement de valeur, en tout cas je le dirais ainsi, de manière fonctionnelle, pour exister en tant qu'élite, quels que soient ceux qui occupent ces postes, eh bien, sont obligés d'être inscrits dans la globalisation et d'une façon presque permanente. Et qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole, c'est une difficulté. Il n'y a plus aujourd'hui d'élite qui ne soit pas inscrite dans le rythme de la globalisation et dans les codes de la globalisation. Et ce dont souffrent aussi certainement nos systèmes traditionnels et nationaux, c'est d'être au fond en prise à travers ces élites avec un régime de l'histoire que nous n'avions jamais connu et qui est au fond, ce sont les affaires publiques planétaires. Nous sommes encastrés
oui.
là-dedans.
Oui, bien sûr, mais j'ai déjà cité à plusieurs reprises ici même des réflexions du mathématicien Laurent Laforgue, qui est engagé depuis longtemps dans une croisade pour les humanités, où il rend hommage aux héritiers, à ces familles bourgeoises qui n'ignoraient pas que leur privilège impliquait des devoirs, et l'un de ces devoirs c'était d'honorer la culture, donc l'existence d'une classe cultivée, disait-il, et cette bourgeoisie cultivée s'oppose à la part toujours croissante et désormais très majoritaire de nos nouvelles élites, ou soi-disant elles, qui considèrent qu'elles n'ont aucun devoir envers rien ni personne, qui se font gloire de leur ignorance et affichent leur vulgarité. On voit ça beaucoup à la télévision aujourd'hui. Donc peut-être que même la mondialisation, la globalisation, ne devrait pas impliquer ce mépris du patrimoine. Et le patrimoine abandonné au seul populisme, ça m'inquiète un tout petit peu. Mais je voudrais poser une dernière question. Je me demande s'il n'existe pas aussi un populisme à gauche ou à la gauche de la gauche, parce que quand je lis Robespierre, jamais les maux de la société ne viennent du peuple, mais toujours du gouvernement. Pour être bon, le peuple n'a besoin que de se préférer lui-même. Pour être bon, il faut que le magistrat s'immole lui-même au peuple. Et on voit ça beaucoup, si vous voulez, dans les enquêtes de Mediapart, etc. La corruption des hommes politiques est sans cesse dénoncée. On a même des textes philosophiques qui vous expliquent que si xénophobie il y a aujourd'hui en France, c'est du fait d'un certain nombre d'intellectuels qui propagent la peste identitaire, qui justement répandent le sentiment d'insécurité culturelle. Mais tout ça vient des élites parce que le peuple est lui-même innocent. Donc ces deux populismes, au fond, se renvoient un peu la balle. Dominique Régnier.
Ça, c'est le grand service que l'entrepreneur en populisme offre à ses interlocuteurs, c'est qu'il parle à un peuple imaginaire dans lequel il n'y a pas de menteur, pas d'escroc, voilà. Pas de violeur, pas de voleur, personne n'est soupçonnable de quoi que ce soit. Et toute personne désignée comme étant corrompue appartient de ce fait aux élites. Oui. Ça marche dans ce sens-là. Et donc ça vous offre un service formidable. Vous écoutez un discours populiste, de gauche comme de droite, vous êtes traité comme une espèce de, au fond, d'entité pure, victime absolue, et tout ce qui vous arrive de mal dans la vie est le résultat d'une injustice. Donc c'est une espèce de rétribution considérable.
Oui. Le mieux, c'est chez Michelet. Enfin, ça c'est extraordinaire. Le peuple, chez Michelet, le peuple est complètement glorifié. Enfin, il est toujours bon. Ça, c'est impressionnant. Le peuple
mais
victime.
N'est-ce pas un climat qui règne aujourd'hui, notamment à travers la mise en cause perpétuelle, et là, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, d'une classe politique chargée de tous les péchés. Est toujours coupable, toujours corrompu.
Il faut dire que l'innocence par nature du peuple, elle a été bien décrite par Rousseau, mais on en est revenu depuis les trois votes qui ont qui ont quand même bien installé Hitler au pouvoir. Il avait été installé avant, mais enfin, qui l'ont bien confirmé. Donc maintenant, on s'est rendu compte quand même que le peuple n'était pas forcément bon par nature. Je pense qu'il me semble qu'on n'en est plus là. Quand vous parlez des élites, il me semble qu'il y a une sorte de cosmopolitisme dévergondé. C'est normal qu'il y ait une élite cosmopolite, mais elle doit continuer à s'enraciner en bas aussi. Et donc, elle doit considérer que les opinions, vous dites patrimoniales, d'accord, du peuple, sont des opinions et pas des crimes de la pensée. Quoi.
Mais quand même, là, je ne sais pas, vous m'étonnez un petit peu, parce qu'il y a quand même une grande offensive médiatico-judiciaire aujourd'hui pour dénoncer sans cesse les transgressions des politiques. Et bon, alors, il y a des affaires qui succèdent aux affaires. Nous vivons un climat dans lequel les affaires tendent à se substituer. L'intérêt pour les affaires tend à se substituer à l'intérêt pour les affaires communes, avec cette idée que les pires, ce sont les politiques. Et donc, il y a derrière tout ça, malgré tout, une sorte de postulat implicite, le peuple est innocent.
Mais bien sûr.
Donc oui, malgré tout ce que vous dites,
ceux qui sont en haut ont quand même plus de devoirs, donc ils devraient se comporter un peu mieux quand même, vous ne trouvez pas ? Tout ça n'est pas normal du tout de vivre dans une corruption pareille quand vous pensez que pour une petite chose, les gens sont punis.
Est-ce que la corruption est aujourd'hui plus répandue qu'hier ? Les exigences de transparence ont beaucoup augmenté aujourd'hui. L'affaire Cahuzac est terrible, cet homme n'avait pas puisé dans la caisse. Il avait dissimulé un compte.
Il a menti quand même.
Oui, il a menti, il a dissimulé un compte. Mais la vraie corruption, c'est vraiment prendre de l'argent dans la caisse. Et je ne peux pas ici le légitimer, mais il me semble que discours anti-corruption a aussi pour finalité ou pour effet de mettre toute la classe politique en cause au nom d'un peuple innocent.
Je crois qu'on peut assurer qu'il y a moins de corruption aujourd'hui qu'il y a 40 ans, ça c'est certain.
Ah, vous pensez ?
C'est certain. La transparence et le contrôle est très fort. Simplement, sur le cas de Cahuzac, il est indéfendable. Il est la figure même pour nos concitoyens de celui qui exige le respect des règles dont il sait absolument même. Donc, c'est pas possible.
Bon, allez, écoutez, nous terminerons sur cette remarque. Merci beaucoup, Dominique Régnier. Merci, Chantal Delsol.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de vos livres, Populisme, les demeurés de l'histoire. Ce livre, Chantal Delsol, vous le publiez aux éditions du Rocher. Dominique Régnier, les nouveaux populismes, chez Fayard, dans la collection Pluriel. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. Je vous invite aussi à venir le samedi 28 mars au studio 104 de la Maison de la Radio pour les 30 ans de réplique. Il y aura deux émissions, de 9h à 10h en direct, La Révolution, La République, La France, avec Mona Ouzouf et Patrice Guénifet, de 11h à 12h, La République des Lettres, existe-t-elle encore, avec Régis Debray et Marc Fumaroli. Vous trouverez sur le site toutes les informations relatives aux inscriptions. Un numéro de téléphone est réservé à ceux qui n'ont pas d'ordinateur. C'est le 01 56 40 10 57. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Auschwitz pour mémoire et mon invité sera Marceline Loridan-Ivens. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Dechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Michel Mestre. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.